Alors pour bien commencer l'année 2016, nous allons nous lancer ensemble dans un survol de l'évangile de Marc. Alors si vous avez vos Bibles, je vous invite à chercher Marc. Chapitre 1, nous allons lire les versets 1 à 20 ce matin. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux de ses paroles. « Tu es mon Fils, bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors, pour toute personne qui veut repartir sur de bonnes bases dans la vie, qui veut recommencer avec Dieu, qui veut recommencer dans la vie, Marc serait un bon endroit pour commencer. Pourquoi je dis ça? Parce que Marc, c'est certainement le premier livre du Nouveau Testament, le premier évangile. On peut dire que c'est le premier écrit chrétien. C'est, on va dire, les premières cours découvertes de l'époque. Et c'est toujours bien de commencer là, de remonter à la source, si on veut vraiment savoir ce qui s'est passé. Si on s'interroge sur la personne de Jésus, sur la foi chrétienne, autant remonter à la source, commencer au commencement. Il vaut mieux se renseigner auprès de ceux qui sont les plus proches des événements que ceux qui sont éloignés, soit dans le temps, soit par la géographie. Et Marc, c'était quelqu'un qui était proche de Jésus. On dit, on pense que Marc a recueilli le témoignage de Pierre, l'apôtre Pierre, et ensemble à Rome, Marc a écrit donc ce premier évangile, premier parmi les 4 évangiles, et donc c'était la première présentation que le monde avait, le premier écrit chrétien qui présentait Jésus. Donc c'est bien de commencer par là. Encore aujourd'hui, beaucoup pensent que la Bible, quand on lit la Bible, notamment les évangiles, beaucoup pensent que c'est un peu comme la légende du roi Arthur. C'est de dire qu'il y avait quelques histoires vraies, mais après ça a été embelli avec le temps. Ou bien la légende de Robin des Bois. Certainement, il y avait un personnage, le roi Arthur ou Robin des Bois, mais après, toutes les histoires, tous les films qu'on en fait, c'est pas tout à fait la réalité. Et beaucoup pensent que la Bible, c'est un peu comme ça, c'est un recueil de légendes modifiées, mais c'est pas le cas. Si vous lisez les évangiles, si vous lisez Marc, vous constatez que c'est très différent. Le style est très différent d'un conte de fées ou d'une légende. D'autres pensent que la Bible, c'est un recueil un peu comme les fables de La Fontaine, c'est-à-dire des histoires vraies ou pas vraies, mais c'est des anecdotes desquelles on peut tirer des leçons de vie. Mais Encore Marc, l'évangile, les écrits de la Bible ne sont pas des fables de la fontaine, c'est plus des faits qu'on nous raconte, des nouvelles qu'on nous raconte et qui vont impacter notre vie. Et si vous lisez Marc, si vous lisez les évangiles, vous êtes frappé de suite du genre de l'écrit, c'est différent des autres livres sacrés, c'est différent des fables de la fontaine, c'est différent des légendes, c'est... Quand vous lisez, vous constatez que vous êtes devant un documentaire historique. C'est pas tout à fait une biographie, parce qu'une biographie s'intéresse à peut-être tous les détails de la vie, la naissance, la mort et tout ce qui entre. Marc, il fait un tri sélectif dans les événements et dans les choses qu'il va raconter, mais c'est comme un documentaire où il va nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Et ça, vous savez faire la différence entre un documentaire et puis une œuvre fictive. Si vous regardez sur la télé un documentaire sur l'espace, par exemple, c'est différent d'aller voir le film Star Wars. Vous pouvez apprécier les deux, mais vous-même, quand vous regardez, tout de suite, vous savez faire la différence entre un documentaire et un film imaginaire. C'est-à-dire dans la manière que c'est présenté, dans les manières que c'est tourné, dans toutes sortes de choses, vous faites la différence et vous pouvez apprécier les deux, mais vous savez, vous allez plutôt croire le documentaire comme des faits et le Star Wars, eh bien, vous allez peut-être apprécier ou pas, mais vous n'allez pas forcément dire que c'est la réalité. Marc, quand vous lisez Marc, il y a tous les traits d'un documentaire, donc c'est ce qui est précieux pour nous, c'est un premier écrit sur la vie de Jésus, qui nous raconte comment les choses se sont faites. Donc on a toute raison de se fier à ces récits des évangiles, puisqu'ils se présentent tels que des documentaires, pas des inventions, des romans imaginaires. Alors le problème, c'est que si vous avez aujourd'hui le choix entre regarder un documentaire sur l'espace et regarder un film d'action comme Star Wars, vous choisissez toujours le Star Wars parce que vous dites que c'est plus intéressant que le documentaire. Alors, mais nous, on a l'avantage ce matin, Marc, c'est non seulement un documentaire, mais un documentaire d'action. C'est un récit d'action. Si vous n'aimez pas les longs discours, Marc vous comprend. On ne trouve pas de longs discours dans cet évangile. Son mot préféré tout au long de ce récit, c'est « aussitôt », « immédiatement ». Dans notre lecture, il y a déjà 3-4 fois. « Aussitôt », « aussitôt que Jésus sort de l'eau », »« aussitôt qu'il voit les disciples », »« aussitôt qu'il passe ». Tout se passe de manière très, très action, très immédiat, très aussitôt dans ce livre. Alors là encore, si en 2016 vous voulez passer à l'action, si vous voulez passer à l'action avec Dieu, cet évangile est pour vous. Alors ce matin, nous allons étudier juste les premières vingtaines de versets. Et ces premiers versets fonctionnent comme une carte de visite, une première présentation de qui est Jésus, de ce que c'est d'être un de ses disciples, des premiers pas à faire avec lui. C'est une carte de visite. Marc va introduire les grands thèmes, il ne va pas forcément les développer en longueur en large, mais on a déjà dans ces premiers 20 versets... tout ce que Marc veut faire, même si c'est succinct, même si c'est, pour l'instant c'est juste des introductions, c'est des présentations. La phrase « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle », voilà, c'est succinct. Pour l'instant, Marc ne va pas développer tout ce qu'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas aussi explicite que ce l'était dans le chant que nous venons de chanter, « La force de la croix », on raconte tout ce que Jésus a fait pour nous. Mais pour l'instant, c'est quand même bref, direct, « Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Donc, c'est ce que nous allons trouver dans ces premiers versets. Alors, effectivement, ce n'est qu'un commencement, mais c'est ce que Marc veut faire. C'est comme ça qu'il commence. C'est le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et dans ces versets, il va développer ce commencement. Alors, pour nous inciter, nous, à être des disciples de Jésus, à comprendre Jésus, Marc va nous donner 3 scènes ou 3 étapes importantes pour devenir un disciple, pour comprendre Jésus. Et la première étape, la première scène se passe dans le désert de Judée avec Jean-Baptiste. Deuxième scène se passe avec au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain. Et la troisième étape se passe à côté de la mer de Galilée avec les disciples. Donc, nous allons voir ces 3 choses ce matin. Rendez-vous au désert, rendez-vous au fleuve et rendez-vous à la mer. si vous voulez bien. Rendez-vous au désert, première scène, premier aperçu, premier commencement de l'évangile. Marc commence son récit avec Jean-Baptiste et son ministère dans le désert. Alors déjà, c'est curieux, un ministère dans le désert, on ne peut pas vraiment appeler ça pignon sur rue, avoir pignon sur rue. Et on peut se demander, est-ce que Jean-Baptiste, est-ce qu'il a bien fait d'aller se paumer dans le désert pour avoir ce ministère? Mais le thème du désert dans la Bible, le passage dans le désert, c'est très important. Et c'est un thème qui parcourt la Bible. Le peuple Israël se sont retrouvés dans le désert à plusieurs reprises. Des individus se sont trouvés dans le désert, comme Moïse, comme Élie. Et Dieu souvent a conduit son peuple dans le désert pour faire quelque chose avec eux, pour leur préparer pour la suite. C'est quoi le désert? Le désert, c'est un lieu d'épreuve, c'est un lieu de dépendance, c'est un lieu de bilan spirituel avec Dieu, c'est un lieu de solitude, on peut faire le point avec Dieu. C'était souvent ainsi que dans l'Ancien Testament est présenté le passage au désert. Alors c'est vrai que le désert, nous on pense au Sahara, les dunes de sable, un lieu sans eau, et c'est vrai que parfois le désert c'est un lieu sans eau, mais le désert c'est, dans la Bible, c'est moins un lieu sans eau qu'un lieu sans Facebook, sans Internet, sans toutes les distractions mondaine, un lieu où il faut apprendre à dépendre sur Dieu, un lieu où on se sent notre faiblesse, notre incapacité, notre dépendance. C'est un lieu où on n'a pas accès au confort habituel, on n'a pas accès aux appuis de la vie, et c'est là où Dieu souvent peut nous parler et nous préparer à comprendre son message. Il y a ce beau verset en Osée où Dieu dit, c'est Dieu parle à son peuple, bien après Exode et Moïse et tout ça, le peuple était un peu dans la désobéissance et Dieu dit par Osée, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et donc ce lieu de désert, c'est parfois là où Dieu doit nous y conduire pour parler à notre cœur, pour nous ramener à lui. Quand Jésus a conduit son peuple dans le désert, quand Dieu a conduit des hommes qu'il allait utiliser dans le désert, c'était souvent pour les purifier. Le désert était un temps de purification. Ou bien c'était pour les éprouver et révéler peut-être quelques lacunes qu'ils avaient. Mais c'est surtout pour les préparer à faire le pas suivant avec lui. Moïse a vécu ça, Élie a vécu ça. Et dans le même sens, c'était le but du ministère de Jean-Baptiste. Ce ministère dans le désert, c'était un lieu de purification, un lieu de préparation pour la suite. Et comme disent les prophéties, j'envoie mon messager qui préparait ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Même son accoutrement et son régime avec ce poil de chameau, ce ceinture de cuir, ces sauteresses, ce miel sauvage, tout ça, c'est lié à un ministère dans le désert et ça fait penser aux prophètes de l'Ancien Testament, comme Élie, qui avait souvent un message de repentance, un message qui appelait le peuple à revenir à Dieu, qui voulait ramener le peuple à Dieu. Et nous tous, nous avons en quelque sorte un rendez-vous au désert pour préparer, pour bien comprendre le message de Jésus, la vie de disciple. La compréhension de l'évangile commence avec un chemin préparé, un sentier aplani, dit Marc. Vous savez, pour faire venir les morceaux de l'A380, à l'époque, ils ont tracé un chemin. Ils ont dû refaire un peu la route entre Bordeaux et Toulouse pour que les morceaux passent. Il fallait aplanir le sentier, préparer le chemin pour que ça passe. Ou bien lorsqu'un personnage très important rend visite à un pays ou rend visite à une ville, justement on va préparer son arrivée. Voilà l'image qu'on a dans les prophètes comme Malachie et comme Ésaïe. Qu'il faut dire, qu'il faut préparer l'arrivée du grand roi, Jésus. Et comme eux, ceux qu'ils ont vécu dans le désert avec Jean-Baptiste, nous devons tous vivre quelque chose de semblable dans notre cœur, si nous allons démarrer la vie avec Dieu, avec Jésus. faut vivre quelque chose qui nous prépare à comprendre Jésus, quelque chose qui nous prépare à vouloir de lui. Et cette préparation, cette attitude, c'est une démarche que la Bible appelle la repentance. Ce que Jean prêchait, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le peuple venait confesser leurs péchés. Et là, oui, c'est la première étape pour recommencer avec Dieu, pour commencer avec Dieu. Cette repentance qui pour nous est voilà, comme aller au désert, faire le point avec Dieu, faire un bilan avec lui, vouloir cette purification dont nous avons besoin. Alors c'est sûr que notre monde fait tout pour ne pas vous donner l'occasion de se retrouver dans ce lieu de solitude, ce lieu de dépendance, ce lieu de réflexion, ce lieu d'honnêteté personnelle. Et on essaie de vous occuper avec plein de choses pour que vous ne vous retrouviez pas au désert. Mais tôt ou tard, je pense qu'on passe par des moments qui nous obligent à poser des grandes questions de la vie, qui nous obligent à faire un examen de conscience, qui nous obligent à faire un inventaire spirituel. C'est des moments peut-être de crise, c'est des moments d'épreuve, c'est des moments de solitude, c'est peut-être des moments de bouleversement dans la vie. Mais voilà, il faut croire que Dieu nous convie au désert pour nous parler, pour préparer ce qu'il veut nous donner, la manière qu'il veut diriger nos vies. Et lorsqu'on passe par le désert, lorsqu'on accepte de mettre sa vie sous le microscope de Dieu, de sa loi, de sa volonté, on sait ce qui se passe. C'est notre propre conscience qui nous dénonce. On n'a pas besoin d'un prophète comme Jean-Baptiste, un prophète de malheur, pour dire « malheur à toi ». On a souvent notre propre conscience qui dit « là, t'as pas fait assez, t'es pas prêt ». Si aujourd'hui le général débarque pour inspecter ses troupes, si aujourd'hui le roi débarque pour être accueilli dans sa vie, dans ton cœur, si aujourd'hui l'inspecteur débarque pour faire le contrôle, t'es pas prête, c'est ce que dit notre conscience au fond. Et c'est vrai, c'est pas agréable de se retrouver dans ce lieu, dans ce sentiment, mais c'est salutaire, c'était salutaire pour préparer ce qui va venir. Parce que la bonne nouvelle de Jésus, cette bonne nouvelle commence à être bonne dans la mesure qu'on a fait ce travail de préparation, qu'on est passé au désert. Et là, on peut comprendre pourquoi Jésus dit « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle devient bonne. La bonne nouvelle de quelqu'un qui va venir nous purifier, nous restaurer, nous ramener à lui. C'est ce qu'il nous faut. Et même Jean-Baptiste était conscient que lui ne pouvait pas offrir ça. Il dit « moi, je vous offre un geste symbolique, ce baptême de l'eau, mais ça, c'est pas assez. Et même moi, je peux pas transformer vos cœurs, je peux pas vous offrir la purification vraiment dont il vous faut. Il faut attendre celui qui vient après moi. Mais il vient, c'est imminent, il arrive. » Voilà ce qu'a annoncé Jean-Baptiste. Donc, rendez-vous au désert, très important pour recommencer avec Dieu, pour recommencer l'année 2016. Plusieurs cantiques ce matin nous invitaient à faire le point avec Dieu, à demander pardon, à être prêt à confesser nos lacunes, nos péchés. C'est salutaire d'être passé par là. Et puis même, je dirais que Jésus lui-même avait son rendez-vous dans le désert, comme nous tous. Sauf que c'était un peu différent pour lui. Pareil, c'était un temps d'épreuve, c'était un temps de tentation, c'était un temps pour révéler son caractère. Mais pour la première fois depuis Adam, pour la première fois depuis Israël, depuis la première fois depuis toutes ces histoires dans l'Ancien Testament, Jésus s'est retrouvé au désert, tenté par le diable, et lui, il n'a pas chuté. Et il n'était révélé aucune lacune, aucune défaillance, aucun péché chez lui. Il a tenu tête à la tentation, au malin. Il a réussi là où nous avons échoué. Donc Jésus avait lui son rendez-vous au désert pour nous rassurer. Que lorsque nous faisons le constat, c'est que péché pour lui, pour nous. Lorsque nous faisons le constat de sa vie, c'est innocence, c'est perfection. Et c'est un commencement de la bonne nouvelle. Marc va développer ça plus tard. Il y aura un autre rendez-vous avec le tentateur. Il y aura un autre jardin. C'est à la fin du livre, un autre moment où Jésus va être tout seul, tenté. Et là, il va devoir réussir. Mais pour l'instant, le début de la bonne nouvelle, c'est déjà que Jésus a été tenté sans péché, dans son désert à lui. Ensuite, rendez-vous au fleuve. Rendez-vous au désert pour la repentance. Rendez-vous au fleuve pour reconnaître l'identité de Jésus. Parce que le grand projet de Marc, c'est de nous aider à reconnaître l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Qui était ce Jésus? Ça reste la question essentielle pour notre vie, pour encore notre époque. Qui était Jésus? Il a bel et bien existé, mais c'était qui? Alors, Marc ne cherche pas à être trop subtil pour nous. Verset 1, il dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». Alors Jésus, c'est le Christ, le Fils de Dieu, d'après Marc. Alors Christ, le mot Christ, c'est un mot riche, un mot que tout l'Ancien Testament va charger de sens. On est peut-être moins habitué, nous, à parler du Christ, mais le Christ, ce qu'ils attendaient dans le Christ, c'était une personne royale. Le Christ, c'était un roi choisi par Dieu, le roi Messie, le roi sauveur, voilà ce qui était le Christ, donc il attendait, et Marc affirme que Jésus, il est ce Christ. Et puis il va plus loin, il disait ici, il est le Christ, le Fils de Dieu. Fils de Dieu, Dieu lui-même. Le Fils d'un homme, c'est un homme, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Alors il dit ça déjà dans la première phrase pour ôter tout doute de son projet, de là où il veut venir. Mais il y a ce rendez-vous au Jourdain qui va nous aider encore plus à reconnaître l'identité de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus a été baptisé, pour que nous aider à reconnaître son identité. Alors, Jésus vient au Jourdain pour être baptisé, comme tout le monde. Mais, dès qu'il sort de l'eau, verset 10, au moment, c'est le même mot, aussitôt, immédiatement, que Marc aime beaucoup, immédiatement, on voit bien que Jésus n'est pas un homme comme un autre. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que les cieux s'ouvrent, les cieux se déchirent, littéralement, et puis il y a une voix qui parle, et puis il y a une colombe qui descend, et là, voilà, ça c'est pas un homme normal, c'est autre chose. C'est quoi tout ça? Cette voix qui parle du ciel, qui dit « mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, cette colombe qui descend ». Eh bien, on précise que c'est l'Esprit qui avait une forme de colombe. Donc, vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, tous présents. Et donc, quand on veut commencer avec Dieu, quand on veut commencer la vie du disciple, on arrive rapidement à cette chose incontournable qui est la Trinité. L'idée de la Trinité, Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un seul Dieu existant en trois personnes depuis toute éternité, dans un amour, dans une unité, dans une gloire parfaite et infinie. Voilà l'identité de Jésus. Mais les détails vont plus loin que ça dans ce récit, parce qu'il parle de l'Esprit comme une colombe, ce qui, nous, on est habitué, mais ce n'était pas une image courante de la colombe à cette époque. Il n'y a pas beaucoup de références à l'esprit, en tout cas avec la colombe dans l'Ancien Testament. Mais il y a quand même une référence. Ça renvoie à Genèse chapitre 1. Et dans les premiers versets de la Bible, au commencement, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il est dit dans Genèse 1 verset 2 que l'esprit était là et l'esprit se mouvait sur les eaux. Dit le verset, c'est un peu mystérieux comme principe, mais le mot « se mouver », c'est le mot un peu voltigé. Il y a une traduction juive de la Bible qui dit « se mouver comme une colombe, se voltiger comme une colombe ». Donc il y avait l'esprit, sa présence qui voltigeait comme une colombe sur la surface des eaux au moment où Dieu va créer le monde. Donc, au moment de la création, vous avez Dieu le Père, vous avez Dieu l'Esprit qui est là, et puis on aime dire que c'est aussi Jésus était présent, comme le passage que Belfort a lu, toutes choses ont été créées par lui. Jésus est la parole de Dieu, quand Dieu dit, ça nous rappelle Jésus, Jean dit que Jésus est la parole, l'expression de Dieu. Et donc, tout est au début de la Bible, vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils, la parole, et puis Dieu l'Esprit qui sont là pour lancer ensemble, c'est un projet d'équipe, c'est un projet de famille, lancer ensemble la création. Alors, ici, Marc, avec la présence de cette colombe qui est là, un peu voltigée sur Jésus, sur les eaux dont il vient de sortir, avec le Père qui est là, eh bien, tout ça, c'est une manière de dire, voilà, Dieu est en train de recommencer. On recommence une nouvelle création. Dieu a créé des choses, et puis le péché les a un peu saccagées. Et maintenant, Dieu, le Dieu trinitaire, l'équipe parfaite, la famille parfaite, l'unité parfaite qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit vient maintenant pour recommencer une œuvre de salut. Et là, je trouve que nous avons une des plus belles scènes de la Bible, le moment où Jésus sort de l'eau. Vous avez le Père parfait qui dit à son Fils, en autant de mots, « Je t'aime, je suis fier de toi et je suis complètement derrière toi. » Je t'aime, je suis fier de toi. J'ai mis en toi toute mon affection. Notre traduction dit tu as toute ma faveur. Je t'aime, je suis fier de toi et je suis entièrement derrière toi. C'est l'Esprit qui va le conduire dans le reste de son ministère. Ça, c'est beau. Le Père parfait qui parle de son Fils comme ça devant tout le monde. Si vous voulez être un mauvais père, faites tout le contraire. Dites à votre enfant, je t'aime pas, t'es nul, et je t'abandonne. Et si vraiment vous voulez détruire une personne, faites ça de manière publique devant tout le monde. Je t'aime pas, t'es nul, je t'abandonne. Devant une grande foule. Là, vous venez de complètement détruire l'âme de votre enfant. Mais le Dieu trinitaire est tout le contraire. Il est cet amour, cette relation parfaite, nous le voyons ici. Et la bonne nouvelle, le commencement de la bonne nouvelle pour nous, c'est pas explicite encore, mais le commencement de la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans une relation parfaite, dans un amour parfait qui manifestait rien qu'à ce baptême, eh bien ce Dieu, il nous invite à le rejoindre, à entrer dans cet amour et dans cette relation. L'offre d'être disciple de Jésus-Christ, c'est l'offre d'entrer, de participer, d'être immergé dans l'amour de Dieu, dans la personne de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Jean annonçait. Moi, je vous baptise de l'eau, je vous immerge dans l'eau, je vous plonge dans l'eau. Mais ça, c'est un geste. C'est symbolique, c'est tout, mais lui, il va vous plonger, il va vous immerger, il va vous baptiser de l'Esprit, dans l'Esprit. Alors cette phrase, on en a fait beaucoup de cette phrase, comme c'est une autre étape de la vie chrétienne, mais non, c'est tout un résumé de l'offre de salut de Dieu, de Jésus-Christ. Il va nous inclure dans tout son être, dans toute sa personne. Il nous rend participants de la nature divine, dit Pierre. Et donc, nous qui avons besoin de purification, nous qui reconnaissons, en passant par le désert, être loin de Dieu, l'offre de l'Évangile, c'est de nous inclure, de nous immerger dans la relation, dans l'Esprit, dans l'amour qui est entre le Père et le Fils. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez bien, notre grande hantise, c'est d'entendre un jour l'univers nous dire « Je t'aime pas. T'es nul, je t'abandonne. » Notre hantise, c'est d'entendre le monde, l'univers, le cosmos, nous dire ça. Et tout ce que nous faisons, c'est pour éviter ça. C'est pour ça que certaines ont Facebook. C'est pour ça que certaines changent de garde-robe. C'est pour ça que certaines ont besoin d'être au courant de tout. Parce qu'ils ne veulent pas entendre « Je t'aime pas, je t'abandonne, t'es nul. » Et c'est l'offre de l'Évangile, le commencement de l'Évangile, que nous apercevons ici, c'est que le jour où nous reconnaissons Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le jour où nous le confessons, le jour où nous croyons dans cette bonne nouvelle, eh bien, il nous inclut dans sa famille et Et du coup, Dieu peut nous dire la même chose qu'il a dit à son fils. Parce qu'on est dans cette famille, il peut nous dire, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute mon affection. Vous imaginez ce que ça fait d'entendre ça du Père parfait? Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis toute mon affection, je suis entièrement derrière toi. Dieu l'a dit à son fils Jésus, et il peut nous le dire si nous sommes en Jésus, si nous suivons Jésus. Donc rendez-vous au fleuve pour reconnaître la véritable identité de Jésus, le fils de Dieu, qui nous offre d'entrer dans sa famille, dans le salut. Et enfin, rendez-vous à la mer, où il faut répondre à l'appel. Donc rendez-vous au désert pour l'étape de repentance, rendez-vous au Jourdain, au baptême de Jésus, pour reconnaître l'identité de Jésus, et enfin rendez-vous à la mer pour répondre à l'appel. Et voilà, une disciple, il passe par ces étapes, d'abord une étape de repentance, ensuite une étape de compréhension de qui est Jésus, mais après il faut cette étape d'implication personnelle, où ils répondent à l'appel, un appel qui lui est personnalisé, comme ça l'a été pour ses disciples. Pour les premiers disciples, ça se passe au bord de la mer au Galilée. C'est pour ça que je dis rendez-vous à la mer, mais ce n'est pas obligé que ça soit à côté d'une mer pour vous. Et là, Jésus a dit simplement, à partir de verset 16-17, Jésus leur dit, suivez-moi. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, encore le mot de Marc, aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Là encore, c'est étonnant, beaucoup de choses étonnantes. Normalement, ce sont les étudiants qui choisissent leur professeur, leur cours, leur école. À l'époque, il y avait des disciples et puis des rabbis, des maîtres. Donc normalement, les disciples choisissaient quelle école, quel rabbi, quel maître suivre. Et c'était à eux de choisir. Mais ici, c'est l'inverse. C'est le maître qui choisit, qui appelle ses disciples. Donc, Jésus n'est pas un rabbi comme un autre. Il convie, il appelle. Et les gens le suivent. Et puis, tout le récit, c'est vraiment à la façon Marc. C'est à la Marc. Puisqu'on s'étonne du manque de détails. Et c'est très succinct. Jésus passe par là, il voit ces hommes qui sont en train de pêcher. Il les appelle et les gens suivent. Et on dit, il n'y a que ça? Est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Mais un parfait étranger passe par là, ils le suivent, mais c'est radical. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Certainement, on sait par les autres évangiles que c'est certains de ses disciples, Simon, André, d'autres, déjà étaient des disciples de... Certains des premiers disciples de Jésus étaient déjà disciples de Jean-Baptiste, ou avaient un frère qui était disciple de Jean-Baptiste. Donc, c'est probable qu'eux-mêmes sont passés au désert, peut-être eux-mêmes ont été baptisés par Jean-Baptiste. On sait que d'autres étaient présents lors du baptême de Jésus, donc ils ont entendu les explications de Jean-Baptiste sur l'identité de Jésus, ils ont vu ces choses. Donc il y avait un précédent, mais Marc n'entre pas vraiment dans ces détails. Lui présente l'aspect très direct. Pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est pour montrer l'autorité totale de Jésus. C'est pour montrer la réponse totale qu'il attend des hommes qui veulent être ses disciples. Vous avez remarqué, c'est un appel sans clause suspensive. C'est un appel sans précision. Jésus ne dit pas où ils vont aller. Suivez-moi. Jésus ne dit pas ce qui va leur arriver en chemin. Suivez-moi. Donc, ce qu'il les appelle à faire, c'est à croire. C'est un pas de foi, c'est un appel à la foi. Ils vont devoir croire, ne sachant pas où tout cela va les amener. Mais l'essentiel, c'est de suivre lui, Jésus. C'est ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il fallait laisser, eux, pour suivre Jésus? Les versets disent qu'ils ont laissé leur filet. Et l'autre verset dit qu'ils ont laissé leur famille, leur père. Simon et André ont dû laisser les filets, verset 18, et Jacques et Jean ont dû laisser leur père, Zébédée. Ça c'est intéressant parce que c'est les deux grandes choses qui nous dictent souvent ce qu'il faut faire, notre famille et notre carrière, notre métier. Et c'est les deux choses qu'ils ont laissées pour suivre Jésus-Christ. À l'époque, la famille était roi. À l'époque, la priorité, c'était de reprendre l'entreprise familiale, comme cela peut être encore dans certaines cultures, dans certains endroits. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. L'Occident célèbre cette liberté, chaque génération peut vraiment faire ce qu'il veut, mais à l'époque c'était pas comme ça. Nous on se dit libre, mais après regardez tout ce qu'on met nous sur une carrière, sur la réussite des études et la réussite d'une profession, ça devient un maître pour nous. Et Jésus dit, en appelant ces hommes de cette façon, il dit voilà, moi je passe devant tout ça, il faut laisser ça et me suivre. Bien sûr dans la suite, ça ne veut pas dire qu'ils ont complètement coupé les ponts avec toute leur famille ou complètement coupé les ponts avec leur savoir-faire de pêcheur. On les retrouve, ces hommes, plus tard dans les évangiles, on les retrouve avec leur famille. On les retrouve même parfois avec une barque, avec un filet. Donc, ça ne veut pas dire couper tous les ponts. Mais il y a un changement, on recommence une nouvelle identité avec Christ où c'est lui la priorité pour notre vie. Et ce que lui nous demande de faire, ça prime sur ce que demande la famille, ce que demande la carrière, ce que demandent toutes les autres choses. Jésus, puisqu'il est le Christ, puisqu'il est le roi, eh ben il peut demander ça et il mérite d'être suivi. Jésus veut être ultime dans nos pensées, dans nos affections, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous vraiment diriger et nous sauver. Tout ça, ce n'est que le commencement de l'évangile. Marc n'a pas encore précisé le chemin que Jésus va prendre. Nous le savons un peu, nous l'avons déjà chanté, ce chemin qui va vers la croix. Mais c'est sûr que notre carrière ne va pas mourir pour nous. C'est pour ça que Jésus est un meilleur roi. C'est pour ça qu'il faut le suivre lui avant tout le reste. Notre famille, même une bonne famille, ne serait jamais aussi parfaite, autant derrière nous que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous invitent à rejoindre leur unité, leur relation. Alors vous voyez, si Jésus nous dit qu'il faut le suivre avant tout le reste, c'est pour être sûr que notre foi soit en lui seul, c'est pour être sûr que nous avons compris la bonne nouvelle, que ce n'est pas notre carrière qui nous sauve, ce n'est pas notre famille qui nous sauve, c'est que lui qui peut nous sauver. Donc il nous demande de le suivre et de s'attacher à lui. Et c'est l'appel qui vous lance ce matin encore pour 2016. Suivez-moi. C'est cet appel que j'aimerais retentir dans le cœur de chacun. Suivez-moi, dit Jésus. C'est simple et c'est radical. C'est inquiétant et c'est merveilleux. Suivez-moi, dit Jésus. La première phrase de notre texte dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Je me suis posé la question, est-ce que cette phrase s'applique au verset que nous avons étudié ce matin, c'est-à-dire le commencement de son livre? C'est vrai que nous avons vu ce matin les commencements, les aperçus de ce qui va venir. Est-ce que ces versets s'appliquent juste au commencement ou est-ce que ces versets s'appliquent à tout son écrit? Peut-être les deux sont vrais, parce que Marc a vécu le commencement de l'évangile, mais l'aventure continue, il y a une suite. Et ça peut recommencer encore avec nous ce matin. Vous voyez, nous sommes la suite. L'évangile a commencé en Judée, à Jérusalem, mais ça s'est propagé. Et des disciples sont devenus des pêcheurs d'hommes, ils ont fait d'autres disciples. Et donc c'est ça la suite de l'évangile. Nous sommes la suite. Le commencement est là et nous sommes la suite. Alors, encore 2016, nous voulons vivre la suite de ce commencement, ce beau commencement de l'évangile. Et Dieu encore, il nous appelle à le suivre. C'est l'occasion de commencer avec lui ou de recommencer avec lui, qu'il nous aide à le faire. Nous allons terminer dans la prière.